bonjour, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Voici les titres de l'actualité de ce lundi 26 juillet. Covid-19, 1318 nouvelles infections ces dernières 24 heures. Aide d'urgence, les critères des bénéficiaires ont été rendus publics. Le festival de la boue de Boliang intègre les trois grands festivals d'Asie. Et enfin du sport avec les dernières nouvelles en provenance de Tokyo. La Corée du Sud a recensé 1318 nouvelles contaminations au Covid-19 en l'espace de 24 heures. Un niveau jamais atteint pour un lundi, lendemain de week-end, où moins de tests sont effectués. Le chiffre dépasse le seuil des 1000 pour le 20e jour d'affilée. Alors que le nombre est en recul dans la région métropolitaine de Séoul, il grimpe dans le reste du territoire pour représenter 40,7% de l'ensemble. C'est la première fois que le taux est supérieur à 40% depuis l'émergence de la quatrième vague et les craintes montent avec le début de la saison des vacances. Dans ce contexte, les régions hors de la capitale et de sa couronne verront leur niveau de distanciation sociale relevé à 3 sur une échelle de 4 et ce à partir de demain. Par ailleurs, jusqu'à présent, un peu moins de 16,9 millions d'individus ont reçu une première dose de vaccin, soit 32,9% de la population. Dès aujourd'hui, la vaccination des 55 à 59 ans débute. Les habitants de Séoul et de ses alentours se feront inoculer le sérum de Pfizer et les autres celui de Moderna. Or, le calendrier de livraison des sérums n'étant pas confirmé, les autorités sanitaires tiendront informés chaque semaine les quinquagénaires de l'évolution de la situation. Et dans le même chapitre, le variant Delta du Covid-19 dominera bientôt en Corée du Sud. Selon les autorités sanitaires, il a représenté 48% des infections la semaine dernière. À ce rythme, le chiffre devrait dépasser les 50% cette semaine. Sur la quatrième semaine de juin, sa proportion n'était pourtant que de 3,3%, c'est-à-dire qu'elle a bondi de 44,7 points en un mois. La cellule centrale de crise établit un état des lieux hebdomadaire des mutants du virus. D'après un responsable de l'Agence pour le contrôle de la prévention des maladies, le Delta ne présente pas de grande différence au niveau de la manière dont il se propage, mais comme il est plus contagieux, il nécessite des mesures plus rigoureuses pour y faire barrage rapidement. Le gouvernement a dévoilé ce matin les critères du versement de l'aide d'urgence visant à épauler la population sur fond de Covid-19. Tout d'abord, 80% des foyers qui ont versé la cotisation la plus faible à l'assurance maladie en juin dernier pourront en profiter. Ainsi, les foyers, par exemple, de deux individus qui se sont acquittés de moins de 191 100 won, l'équivalent de 51 euros, et ceux de quatre personnes qui ont versé au maximum 308 300 won, soit 227 euros, font partie de la liste. À propos des ménages composés d'une seule personne, l'exécutif a élargi le champ d'application à ceux qui touchent moins de 50 millions de won par an, soit 36 900 euros. En ce qui concerne les foyers à double revenu, ils sont considérés comme ayant un membre de famille en plus. Par exemple, une famille de deux personnes actives se verra appliquer le critère de celle de trois individus à un seul revenu. Les classes les plus aisées, dont l'assiette de l'impôt sur le patrimoine a dépassé 900 millions de won l'an dernier, soit 663 000 euros, ou dont le revenu financier est supérieur à 20 millions de won ou 14 700 euros, ne pourront pas en profiter. Selon l'exécutif, la liste des bénéficiaires sera établie fin août et le calendrier de versement sera déterminé à la suite de négociations avec les autorités sanitaires. Par ailleurs, l'allocation de soutien pour les petits commerçants sera accordée à partir du mois prochain, tandis que le dédommagement des préjudices subis sera mis en œuvre fin octobre. Le dirigeant nord-coréen a adressé un message de consolation et de sympathie au président chinois suite aux inondations dévastatrices qui ont récemment frappé l'empire du milieu, notamment la province du Henan. C'est ce qu'a fait savoir samedi dernier l'agence centrale de presse nord-coréenne. D'après la KCNA, Kim Jong-un a exprimé ses condoléances aux victimes et à leurs familles et salué les efforts des membres du Parti communiste chinois déployés pour la prévention d'autres dégâts et le rétablissement des sites endommagés. Entre transmettant son soutien à la lutte du peuple chinois pour un retour à la normale, le jeune leader s'est dit convaincu que le pays se redressa vite sous l'égide de Xi Jinping. Selon les observateurs, cet acte pourrait témoigner de la volonté de Kim de consolider les liens d'amitié et de coopération bilatéraux. Début juillet, à l'occasion du 60e anniversaire de la signature du traité d'amitié entre Pyongyang et Pékin, Kim et Xi avaient souligné ensemble, via un échange de missives, que les deux nations étaient liées par une amitié fraternelle. Nous restons au nord où Pyongyang resserre l'étau sur les contenus audiovisuels sud-coréens sans pour autant entamer leur popularité auprès de la population. C'est ce que nous apprend le livre blanc des droits de l'homme en Corée du Nord, publié récemment par l'Institut de recherche pour la réunification de la Corée. Pour être plus précis, le royaume ermite a durci le contrôle sur les appareils numériques qui contiennent des contenus considérés comme menaçants pour le régime, ainsi que la punition infligée pour leur détention. Or, malgré ce tour de vis, les Nord-Coréens affichent toujours une forte demande pour l'accès aux informations de l'extérieur. Une autre remarque, depuis l'arrivée au pouvoir de Kim Jong-un, la surveillance de la population et la violation de la vie privée se sont renforcées, particulièrement les familles des réfugiés et des résidents passés au sud, celles des disparus, ainsi que les individus qui s'adonnent au trafic illicite, comme les envoyés étrangers, en sont pris pour cible. En ce qui concerne la cause des femmes, le rôle traditionnellement dévolu aux de sexe à la vie dure dans la société nord-coréenne. Et même si les femmes nord-coréennes participent davantage à la vie active, leur statut social reste peu élevé. Un progrès toutefois a été constaté. Alors que les exécutions publiques se poursuivent pour les crimes idéologiques et les actes de superstition, leur fréquence et la mobilisation des habitants ont été réduites.
Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio.
Un sondage réalisé par RealMeter pour la chaîne d'information en continu YTN montre que 2/3 des Sud-Coréens sont favorables à la libération conditionnelle de Lee Jae-yong, le vice-président de Samsung Electronics, à l'occasion du 15 août. En effet, ce jour anniversaire de la libération du pays du joug colonial japonais est souvent utilisé pour les grâces présidentielles ou les mises en liberté conditionnelles. Selon l'étude menée vendredi dernier auprès de 500 adultes à travers tout le territoire, 66,6% des sondés se sont déclarés pour une telle faveur afin de relancer l'économie nationale, tandis que 28,2% étaient contre, ce qu'ils perçoivent comme un privilège. Par sensibilité politique, 93,6% des sympathisants du Parti du pouvoir du peuple, la première force de l'opposition, s'y sont montrés favorables. En revanche, du côté des adeptes du Minju, le parti au pouvoir, 51,8% étaient contre et 40,5% pour. Chez les répondants sans étiquette politique, 79% soutiennent une telle mesure. Par tranche d'âge, maintenant, les 70 ans et plus sont les plus favorables avec 85,7% de réponses positives, suivis par les sexagénaires. Les quadragénaires constituent le groupe le plus opposé avec seulement 51,6% d'opinions favorables. Le taux de fiabilité de ce sondage est de 95% avec une marge d'erreur de plus ou moins 4,4 points. Le festival de la boue de Boliang a été sélectionné comme l'un des trois grands festivals asiatiques par l'Association internationale des festivals et des manifestations. Ce choix a été officialisé lors du forum en ligne sur les fêtes des villes maritimes qui s'est tenu à Daecheon où se déroule cet événement. L'association a procédé au classement des trois meilleurs festivals en deux étapes. La sélection de 17 manifestations organisées dans 7 pays d'Asie, puis un sondage auprès d'un panel de 300 personnes composée de spécialistes et de citoyens. Résultat, la manifestation sud-coréenne a été retenue avec le festival de sculpture sur glace et de neige de Harbin en Chine ainsi que la fête de l'eau de Songkran en Thaïlande. Le festival de la boue de Boliang se déroule entre juillet et août sur les plages de Daecheon sur la côte ouest de la péninsule. Nous sommes en plein été et la pandémie de Covid-19 n'empêche pas pour autant les Sud-Coréens de partir en vacances. Samedi dernier, près de 40 000 touristes ont afflué vers la plage de Haeundae à Busan. Alors que le nombre quotidien de nouvelles contaminations dans cette première ville portuaire du pays dépasse les 100 depuis 4 jours, les bords de mer sont plébiscités en ces temps de canicule. La station balnéaire de Sokcho, dans la province de Gangwon, a quant à elle accueilli 12 000 vacanciers le même jour, alors que le niveau de distanciation protection sociale en vigueur y est de 3 sur une échelle de 4. Le nombre d'estivants a chuté de moitié par rapport à la période pré-Covid, mais il est plus élevé qu'à Gangneung, une autre destination touristique de la région, soumise, elle, au niveau maximal des restrictions sanitaires. À l'occasion du coup d'envoi de la saison des vacances, les plages sont ainsi munies d'une série de dispositifs de prévention. Par exemple, à l'entrée, les visiteurs doivent appeler un numéro spécial afin d'enregistrer leurs coordonnées et les autorités effectuent des patrouilles afin de sensibiliser les gens au port du masque et de contrôler les rassemblements de plus de 4 personnes. Selon Météo Corée, la vague de chaleur perdurera la semaine prochaine sur tout le territoire. La ruée des citoyens vers la mer devrait donc se prolonger. 6 Sud-Coréens se sont envolés samedi dernier pour Saipan à bord d'un avion d'Asiana Airlines dans le cadre de la première bulle de voyage. Il s'agit d'un accord bilatéral permettant aux citoyens d'un pays de visiter l'autre sans se soumettre au confinement. L'aéronef transportait une 60aine de passagers dont la plupart étaient des expatriés sud-coréens non soumis à cette mesure. Les compagnies aériennes low-cost Tiwai Airlines et Jeju Air prévoient également d'ouvrir une ligne reliant Incheon à cette petite île des Mariannes du Nord. Celle-ci a désigné 2 hôtels afin d'accueillir les groupes de touristes sud-coréens. Un petit bémol toutefois, dans le sillage de la 4e vague de l'épidémie qui frappe actuellement le pays du matin clair, il n'est pas certain que ce type de voyage prenne son essor. Les habitants demeurent réticents à partir à l'étranger, d'autant que Saipan est populaire auprès des 20 à 39 ans et des familles dont le taux de vaccination reste bas. En cas d'aggravation de la situation, ce corridor sanitaire risque d'être suspendu. Les agences de voyage se veulent optimistes en s'attendant à ce que la Corée du Sud maîtrise la propagation d'ici 2 à 3 semaines pour une reprise du tourisme autour de Chuseok, la fête des moissons en septembre prochain. La bulle de voyage concerne seulement le tourisme collectif des individus qui se sont fait injecter la 2e dose de vaccin au moins 4 jours plus tôt. Ceux-ci doivent remettre un certificat de test négatif au moins réalisé 72 heures avant le départ et subir 2 nouveaux tests sur place une fois arrivés et l'autre avant de regagner leur pays.
Toute l'actualité de toute la Corée, c'est ici sur KBS World Radio.
Et voici les dernières nouvelles en provenance des JO de Tokyo. Une d'or et une de bronze. Ce lundi, la Corée du Sud a remporté 2 nouvelles médailles. À Tokyo, où les Jeux Olympiques ont débuté vendredi soir par une cérémonie d'ouverture malgré le Covid-19 et la canicule. Est-ce devenu une règle comme samedi et comme dimanche dernier? Tout a commencé cet après-midi en tir à l'arc. Lors de la finale de l'épreuve par équipe homme qui s'est déroulée au terrain de Yume no Shima, Kim Jae-dok, Kim Woo-jin et Oh Jin-hyuk ont battu leurs adversaires de Taipei chinois 6-0. C'était un moment fort pour les amateurs de tir à l'arc du pays du matin clair, car c'est la 2e fois que leurs archers montent sur la plus haute marche du podium des JO dans cette discipline. Et le Benjamin Kim Jae-dok avait le sourire aux lèvres pour cette 2e victoire dans l'archipel, car avant-hier, il a déjà obtenu cette récompense en épreuve par équipe mixte, une nouveauté au programme olympique. Ensuite, leur compatriote judoka Han Chang-lim a mis une médaille de bronze autour de son cou en moins de 73 kilos hommes. Dans le combat pour cette récompense qui s'est tenue en début de soirée, il a battu l'Azerbaïdjanais Rutam Orujov avec un waza-hari. Par ailleurs, lors de la demi-finale du 200 mètres nage libre homme qui s'est tenue ce matin au centre aquatique de Tokyo, Hwang Son-woo s'est classé 6e avec un temps de 1 minute 45 secondes 53. Il figure ainsi parmi les 8 finalistes et fera tout son possible demain matin pour la victoire. C'est la première fois en 9 ans qu'un athlète du pays du matin clair participe à une finale de natation depuis Park Taewon à Londres. Hier, Hwang avait déjà réservé une bonne surprise aux supporters sud-coréens en battant le record national du 200 mètres nage libre masculin avec un temps de 1 minute 44 secondes 62. Avec les 2 médailles d'or qu'elle a déjà récoltées ce week-end en tir à l'arc dans l'épreuve par équipe mixte et dans celle par équipe femme et 3 de bronze en escrime, en judo et en taekwondo, la Corée du Sud totalise 3 ors et 4 bronzes, ce qui lui permet d'occuper le 5e rang au classement général. La première place est occupée par les États-Unis avec entre autres 7 médailles d'or. Et pour terminer, le taekwondo a ouvert la porte des médailles à des pays qui ne réalisent pas d'habitude de grandes performances aux Jeux Olympiques. Selon le New York Times, depuis son introduction officielle aux JO de Sydney en 2000, cet art martial traditionnel coréen a rapporté plus de 12 récompenses aux nations qui étaient en queue de classement général. La Côte d'Ivoire et la Jordanie ont obtenu leur premier titre dans l'histoire olympique lors de l'édition de 2017 à Rio, tandis que l'Afghanistan a décroché le bronze, sa seule et unique médaille, à Pékin en 2008. Cette année, la Thaïlandaise Wong Patanakit s'est adjugé la première médaille d'or de son pays dans cette discipline en moins de 49 kilos. Dans la catégorie masculine des moins de 68 kilos, l'Ouzbek Rachitov est monté sur la plus haute marche du podium. Le quotidien américain a affirmé qu'il s'agissait de la discipline la plus généreuse des JO et qu'elle faisait preuve d'une grande diversité. Selon lui, le taekwondo s'impose comme un sport grand public en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. D'autant plus qu'il ne nécessite pas l'acquisition de matériel coûteux. C'est la fin de ce journal présenté aujourd'hui par Thierry Laplanche. Merci de votre fidélité et belle soirée sur nos ondes.